I see trees of green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
What a misfortune!
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
What a misfortune! Ça lui coûte là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Voix en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent.
S'épandent et s'accroissent.
Se développent, augmentent.
Se diffusent et se propagent sur le web.
Sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix...
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Eh ben, bonjour. Donc on a la chance encore aujourd'hui, parce qu'on a toujours de la chance avec cette émission Voix en expansion, dans notre beau petit salon bibliothèque, on a un invité d'honneur, Fabrice Capizzano, dans le cadre des Nuits de la...
Oh, on n'a pas qu'un seul invité, Annette. Hein.
Non, mais il y en a plein.
Oui, non, mais là, tu as abusé quand même. On en a plein. Alors, on va dire tous les prénoms. Alors, il y a Gérard, il y a Bernard, il y a Eric, il y a Pauline, il y a... Non, vas-y, continue.
Donc, tout ça pour dire, dans le cadre des Nuits de la lecture, que va d'ailleurs nous présenter Eric.
Voilà, donc, association Vent du Vercors, qui s'est associée aux Nuits de la lecture, qui en sont à leur 10e édition, sous l'égide du Centre national du livre et du ministère de la culture. 10e édition des Nuits de la lecture, donc Vent du Vercors s'est associé, sur le thème cette année de villes et campagnes. Donc on a eu à cœur, nous, avec Vent du Vercors, de relever le challenge et d'être présents sur les 5 nuits. Il y a eu très peu de manifestations qui vont occuper comme ça 5 nuits par une association. Donc nous, on a relevé le gant et on a relevé le challenge. On voulait aussi faire rejaillir la lecture sur le plateau. Donc on a disséminé aussi nos interventions ici, bien sûr, à Vassieux, à Basse Nature. Et on remercie Annette et Bernard encore une fois de nous recevoir. Et puis les 4 autres soirs, donc à la chapelle, à Saint-Agnan, où il y aura aussi la continuité de cette nuit.
Alors lecture et vie associative, c'est ça?
Lecture et vie associative, oui, c'est tout à fait.
D'accord, ça.
Ça
vous mène, mais le Vent du Vercors, vous faites que ça ou
ah
vous
non,
faites toujours la lecture et la
vie? Le Vent du Vercors, c'est une association multiculturelle, on va dire, dont le but, c'est de défendre les arts et de porter les arts, quels qu'ils soient, que ce soit le chant. On a d'autres idées aussi qui vont peut-être poindre dans les temps à venir. Parce que
il y a des grandes manifestations, non, je sens.
Il y a des grandes manifestations, oui.
Alors.
On a animé plusieurs fois le village à travers un week-end chantant, par exemple. Donc oui, il y a l'animation du village.
Bravo. Combien d'adhérents?
Alors, nous sommes 19 adhérents actifs.
Ah, mais on est plus que 19 alors.
Ouais, et on est autant d'adhérents de soutien. Donc, on est pas loin d'une quarantaine aujourd'hui.
Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fabrice, de cette histoire de vie associative et de la lecture?
Eh bien, très bien, certes, évidemment. Enfin, faire rejaillir la lecture sur des territoires comme le Vercors via des assos comme ça, évidemment, c'est nul, en fait.
Non, c'est pas nul, parce que tu as un lien. Il y a un lien avec beaucoup de gens que tout à l'heure tu es rentré. En fait, tu connais pas mal de monde, finalement.
Ouais, mais c'est le Vercors.
C'est le Vercors.
Aussi,
c'est le Vercors qui s'est lié aussi, qui est une base aussi de ton écriture. Hein, Et cette vie associative et le lien qui existe entre les personnes, tu le sens aussi vivre, revivre, toi qui passes et repasses. Est-ce que tu sens, par exemple, que cette vie a toujours existé, qu'il y a quelque chose au niveau de la culture qui se met en place ou,
Non, non, je trouve que depuis maintenant quelques nombreuses années, il y a eu un vrai regain associatif et culturel sur le plateau. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé sur le plateau à la fin des années 90, c'était un peu mou tout ça quoi. Et les temps ont bien changé parce qu'il y a plein de choses en fait, on le voit, et pas que l'été hein, là on est mais non il se passe toujours régulièrement des choses, et évidemment ça fait un bien fou de voir la culture, la littérature, la musique, la danse, l'art en général. Bah, évidemment ça fait du bien que ça vienne, ou en tout cas que ça vive ici sur le plateau, et que ça se cantonne pas dans la plaine ou en ville quoi.
Alors moi je suis là pour vous réveiller tous. Tac. Alors tu es de passage, tu peux te présenter s'il te plaît.
Alors,
comme ça.
Moi je suis Solange.
Solange.
Je viens interviewer Fabrice. Je fais partie de Vent du Vercors et de l'Enchâtre de Saint-Agnan Animation. Voilà, je suis ici depuis 2 ans et je suis ravie effectivement de voir la vie associative et tout ce qui se passe.
Alors qu'est-ce que tu apportes ? Parce que tu es arrivé avec plein de bagages, même il y en a qui l'a pris, même t'as chouré un kamishibaya d'autres.
Hein ? Oui, moi j'apporte un conte que j'ai créé, que je vais lire aux enfants des écoles, qui s'appelle Kadia et les étoiles.
Je crois aussi que tu fais des clubs d'écriture.
Voilà, et j'anime sur le Vercors un atelier d'écriture.
Et ce soir, tu vas tarabiscoter notre ami Fabrice.
Voilà.
Voilà. On peut applaudir, merci. Il n'y a pas que Lucien Jeunesse hein, dans la vie. Donc, on est parti. À toi la main.
À moi la main. Alors, Fabrice, je suis ravie de te rencontrer et de parler avec toi.
Et moi aussi, Solange.
Merci. On l'accueille ce soir pour son 3e livre, Une salamandre à l'oreille. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on peut dire que Fabrice vit depuis un moment dans le Vercors. Il a, en gros, je présente en gros comme ça, hein, il a exercé de nombreux métiers. Donc il a exercé le métier d'apiculteur. Et puis il a milité pour Greenpeace. Il a fait plein d'autres choses aussi. Aujourd'hui, il nous présente son 3e roman et il vit de sa passion. Est-ce qu'on en vit ?
J'en vivais là jusqu'il y a 15 jours.
D'accord.
Parce que j'écris des romans et à côté de ça, j'ai pas mal de petits projets qui ne payent pas beaucoup, mais j'avais un contrat à durée indéterminée pour la première fois de ma vie. Et je travaillais avec une équipe d'auteurs. On était 6 auteurs au départ et là, à la fin, on n'était plus que 3. Mais on était sur une saga littéraire, fantasy, SF, donc science-fiction et post-apo. Et en lien avec un jeu vidéo là, qui se passait sur Marseille, s'appelle Crazy Edges. Et du coup, clairement, ça me permettait de manger. Et puis surtout, ça m'a éclaté complet de travailler avec d'autres auteurs. Ça nous permet de sortir un peu de notre grotte.
Sa zone de confort.
Notre zone de confort. Il y a un côté très solitaire dans l'écriture. Et là, ce n'était pas le cas parce qu'on était en équipe, en tout cas, pour structurer et raconter cette histoire. Et puis j'ai appris plein de trucs et astuces et de techniques littéraires que je n'avais pas du tout, parce que moi je suis très instinctif dans mon écriture. Et donc j'en vivais, il est possible que j'en revive un jour, en tout cas je vais pas lâcher.
Et employé.
Ouais, non, mais je lâche pas, ouais, c'est sûr.
Donc c'est le 3e roman de Fabrice, après La fille du chasse-neige, puis Le ventre de la péniche. Donc, les 3 ont été publiés au Diable Vauvert. Je vous présente rapidement l'histoire. C'est Samuel Page, un écrivain à succès, qui a cessé d'écrire depuis la mort accidentelle de sa femme, Diane, la mère de ses 3 enfants. il est maintenant apiculteur. S'il a du mal à faire son deuil, il trouve refuge au milieu de ses abeilles, un peu débordées, entre son travail d'apiculteur, la gestion et l'éducation de ses trois enfants, avec en fond le travail avec sa psy, pour enfin se délivrer de ses démons et peut-être se remettre à écrire. Présente tout au long de l'histoire une salamandre insolite, mystérieuse, qui apporte sa touche, s'inscrivant dans la vie de la famille. Alors, qu'est-ce que c'est que cette salamandre ?
Eh bien, je ne vais pas vous le dire.
Ah ! Alors,
voilà. je vais répondre à ta question, Solange, mais je vais quand même étayer ma réponse, parce que sinon, ce serait pas très sympa. Mais ce qui est génial, en fait, moi, je trouve qu'un bouquin, il est réussi quand... un lecteur vous raconte l'histoire que vous n'avez pas du tout voulu raconter, quoi. Et qu'il en est convaincu, et quand vous lui dites bah, non, il vous dit bah, si. Et ça, c'est génial. Et en gros, par rapport à la salamandre, typiquement, moi, j'ai eu plein de versions différentes de lecteurs qui me disent « Ah, mais la salamandre, mais c'est ça !» Et je dis « Ah bon ?»
Moi, j'ai vu un témoin, un petit bonheur qui accompagne.
Voilà.
Donc, tu vois, c'est génial. C'est-à-dire, chacun se fait sa définition de cette salamandre. Donc, pour moi, c'est une vraie réussite. Moi, je sais très clairement qui est cette salamandre et quel est son rôle et pourquoi elle est là. Mais bon, je ne vous le dirai pas. Et c'était un peu la même chose sur mon bouquin précédent, là, la fin du ventre de la péniche, que je ne vais pas divulgâcher. Moi, c'était hyper clair, c'était limpide et tout ça. Et en fait, pas du tout. Tout le monde m'a dit à la fin, mais en fait, il se passe ça. Et j'étais sidéré. Je me dis, mais j'ai raté. Sur le coup, je me suis dit, j'ai raté mon bouquin. Et en fait, ben non. En fait, c'est ça. Je trouve que quand le lecteur il s'accapare ce que tu as fait, eh ben, ça marche, quoi.
Ouais.
Et c'est ça. De toute façon, du moment où tu as signé ton contrat avec ta maison d'édition et que ça part à l'imprimerie, ça y est, c'est terminé. Le bouquin, il ne t'appartient plus. Donc, on va en parler tant qu'on veut, mais il n'est pas à moi. Et ça, c'est génial aussi. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là.
Alors, chaque chapitre démarre par un topo complet, précis et vivant sur l'apiculture. La ruche, les abeilles, une bouffée de parfum et de miel. Je passe la parole à Annette.
Un court extrait. L'essaimage. L'essaimage naturel est un mode de reproduction instinctive des abeilles. Il se produit lorsque la vieille reine part de la ruche avec une partie de la population pour perpétuer, tandis qu'une jeune reine, tout juste née ou presque, fécondée ou pas, prend la relève dans la ruche. L'essaimage a lieu au printemps, parfois en début d'été, jamais en hiver. Il apparaît généralement lorsque la ruche est remplie de couvains fermés et que la reine n'a plus de place pour pondre, ou tout simplement lorsqu'il y a trop d'abeilles dans la ruche. Ou encore, lorsque les nourrices, gorgées de gelée royale, n'ont plus de jeunes larves à nourrir pour évacuer ce trop-plein de nourriture royale. Parfois, il arrive que les abeilles attrapent la fièvre de l'essaimage parce qu'elles s'ennuient.
Voilà, alors chaque chapitre commence par ce topo qui va nous parler de la vie de la ruche complètement. Et c'est un contraste entre cette partie très presque technique, en même temps écrite de façon poétique, et le reste de l'histoire qui est beaucoup plus... Je trouve pas le mot.
Envolé,
voilà.
Comme une abeille, quoi.
Comme les abeilles.
Ouais, en tout cas, c'est un vrai choix aussi. Donc là, il y a tout un jargon. Il me semble que c'est en plus un des derniers topos sur un des derniers chapitres. Donc il y a tout un jargon apicole que j'explique quand même au fur et à mesure, tout ça. Et je trouvais que c'était super intéressant de faire le contraste. Donc pour être très honnête, moi, bon, j'ai une culture... de l'apiculture, parce que j'ai été apiculteur une dizaine d'années, mais je me suis quand même appuyé sur la littérature et sur certains bouquins techniques pour me dépatouiller un petit peu de ça. Mais c'était un vrai choix aussi de d'employer ce ton factuel pour contraster justement avec tout le reste et tous les passages émotionnels où je sais que je peux en mettre des couches. Ouais.
Et alors, attends, Fabrice, mais tu fais des allers-retours dans ton passé au moment où tu écris fur et à mesure.
Moi, non, Samuel Page,
oui. Oui, mais je veux dire, oui, moi, non, mais là, quand tu parles de la ruche, tu te imprègnes un peu de ce que tu vis. Voilà, ça va t'imprégner ensuite pour l'écriture. Comment ça se passe?
C'est topo
là, parce que tu les, ou alors tu les as tous préparés d'un coup.
En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou de les écrire, parce que je posais un petit peu mes émotions et voilà, c'était vraiment très factuel. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça me poussait aussi à bosser ma structure, parce que il y a un vrai parallèle entre ces passages techniques qui sont liés à l'abeille et au monde des abeilles et mon histoire. Quoi. Donc, oui. Après, c'est pareil, chacun se fait son interprétation propre. Et oui, ça m'a fait du bien. Ouais.
Ok.
Mais comment tu es passé de tes vies antérieures à la vie de l'écriture? Comment tu t'es mis à écrire et pourquoi?
Ben en fait, moi, j'ai toujours écrit, gamin. Ça a toujours été quelque chose que j'ai pratiqué, mais de manière totalement cachée, en fait. Donc, personne ne savait que j'écrivais. Même mes proches ne savaient pas que j'écrivais. Et donc, je ne sais pas, je suis tombé dedans. Je n'ai pas l'impression d'avoir choisi grand-chose parce que je n'étais pas un très bon élève. J'étais même au risque de choquer. J'étais un vrai branleur, en fait. Hein,
oh putain, ça nous choque. Mais alors là, tu peux pas savoir. Alors, ça va tu...
Oh là, je survis.
Ouais, puis Daniel Pénac aussi doit être mal. Tout le monde doit être mal ici.
Mais il est là, Daniel?
Bah non, mais il est à côté. Il t'entend, tu sais. Il est là, il est branché.
Et donc voilà, mais bon, voilà, j'ai toujours eu ça dans la peau. Je sais pas comment le dire. J'avais ça, quoi. J'aimais ça. Je me posais devant une page et puis ça a toujours été assez évident. C'était un vrai déversoir. Donc après, j'ai longtemps arrêté d'écrire parce que la vie, les enfants, l'apiculture, qui était quand même hyper chronophage et qui me prenait beaucoup de charge mentale, etc., m'empêchait vraiment. En tout cas, je n'arrivais pas à écrire. Et puis quand j'ai arrêté l'apiculture, j'y suis revenu de manière un peu évidente et sans calcul. Et je me suis posé devant mon ordi en disant bon, est-ce que je suis capable encore d'écrire une phrase qui tient la route? C'était le grand vertige quand même, mais j'avais pas le choix. Hein. Vraiment, j'avais pas le choix. Quoi. Il fallait que j'y aille. Et j'ai commencé un texte sans savoir qu'en fait, j'écrivais La fille du chasse-neige. C'était vraiment parti comme ça. Je suis reparti direct sur La fille du chasse-neige. Une page, deux pages, trois pages. Et puis à la fin, il y avait un manuscrit. Quoi.
C'est exactement la question que j'allais te poser. Je me disais, quand tu démarres quelque chose, ouais. Est-ce que tu as une idée de où tu vas? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu sais où tu vas aboutir?
Alors, ça dépend de mes bouquins. De premier bouquin, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je ne savais pas d'une page à l'autre ce qui allait se passer dans mon histoire et pour mes personnages. Le gros du boulot, c'était me mettre en état d'écriture, me mettre en immersion dans ma scène et me mettre à l'écoute de mes personnages et bien entendre ce qu'ils me racontaient sur leur vie et leur histoire. Et jusqu'au bout, ça a été un peu ça quand même. Le second, j'ai essayé de le travailler un petit peu plus en hauteur et d'imaginer un vague squelette, mais c'était très vague. Hein. Il y avait même pas la colonne, quoi. Il y avait peut-être une rotule et un numérus, quoi. Et le troisième, comme je travaillais en parallèle avec ce projet collectif, donc à 6, qui se voulait extrêmement structuré, où aucune ligne n'était gratuite. On travaillait sur des structures narratives précises, des arcs narratifs, des enjeux, etc., etc. À un moment, ça m'a un peu étouffé, voire carrément gonflé. Et j'avais un besoin viscéral de revenir à la vieille école, c'est-à-dire repartir sur un bouquin sans savoir du tout où j'allais. Donc j'ai commencé en fait La Salamande sans savoir du tout où j'allais. Et puis ça me faisait très plaisir. J'aime beaucoup ça, quoi, ce plaisir du vertige une fois de plus. Sauf qu'à un moment, ça marchait plus. C'est-à-dire qu'à un moment, je prenais des directions et en fait, je parlais. Mais voilà, je commençais à m'écouter écrire et j'avais rien à raconter, quoi. Et donc, il a fallu que je prenne du recul. À la moitié du bouquin, il me dit « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Et j'ai beaucoup travaillé à la fin de la salamandre, dans sa structure. En tout cas, je me suis rendu compte assez rapidement que tout le livre m'amenait au dernier chapitre. Et donc, ce dernier chapitre, je l'ai énormément travaillé, j'y ai énormément pensé. Et ça m'a même totalement... ça a pris toute ma matière grise, ce dernier chapitre. Et comment arriver à ce dernier chapitre en étant crédible et comment tenir mon lecteur jusqu'à ce dernier chapitre.
Ce qui t'a amené à retravailler avant certaines scènes ou certaines...
Ouais, parce que je rebosse beaucoup, je retravaille énormément des choses. Donc oui, bien sûr, je suis obligé de repasser... Et bon, ça fait partie du boulot aussi, quoi.
Oui, tout à fait.
Eh bien, moi, je vais dire à nos auditeurs, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent comme ça sur la radio, tu sais pas. Il y en a un qui est arrivé, je sais pas pourquoi, il a allumé la radio d'Iwa, là, sur sa voiture, il vient juste d'arriver. Donc, on est avec Fabrice Cavizzano. On est sur le dernier roman, voilà, une salamandre dans l'oreille, parce que j'ai un cerveau qui est aussi à l'oreille percée. Moi, ce que j'aimerais dire, Fabrice, pour faire le petit lien, parce que c'est le job, tu m'as dit une fois, ou j'ai entendu quelque part, que tu mettais de la musique pour des fois t'inspirer. Alors là, t'as pas trouvé parce que on s'est pas entendu, mais moi je t'ai mis les Cowboys Fringants. J'espère que ça te va.
Ça te va ? Pas de problème, voilà.
Et puis la prochaine, tu réfléchis. Merci, alors hop, on est écouté.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qui tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus rien, plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la peine et qu'ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont en utilisé et que les inondations ont frappé les grandes villes, et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens qui se battent contre les pandémies, décimés par millions par la grosse maladie. Puis les autres sont morts par la soif ou la peur. On retombe les mousses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus rien, plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Eh bien, donc Annette, on est toujours avec Fabrice Capizano sur
Des voix en expansion sur 107.5 Radio Diwa. Donc une émission avec Fabrice Capizano dans le cadre des Nuits de la lecture organisées à Vassieux par Vent du Vercors.
Vous pouvez applaudir là quand même, elle est quand même extraordinaire. Hein. Moi je dis elle est extraordinaire. Hein. Les gâteaux, la soupe et c'est top. Donc pour nos amis qui viennent d'arriver, qui ont claqué leur voiture ou je sais pas quoi, vous pouvez écouter aussi l'émission sur, sur internet, hein, la télécharger. Ok Annette, on est parti. Allez Solange, à toi.
Alors, ce roman est publié au Diable Vauvert. Ouais. Je suis allée voir la ligne éditoriale du Diable Vauvert, qui nous dit « Les éditions au Diable Vauvert ont d'abord pour ambition de désenclaver les genres et faire reconnaître de nouvelles voix d'écrivains émergeant des pop cultures, avec pour mission de défendre de jeunes Français impertinents, comme Gaiman, Ayerdala, il y en avait plein, j'ai pas tout écrit.
Ayerdal, oui.
Ayerdal. Les éditions Au Diable Vauvert revendiquent avec fierté des voix faisant matériaux littéraires du réel et de la langue vivante, en rupture avec tout académisme de style, ironique, transfictionnel, etc. Alors, est-ce que tu te sens pop culture? Ça veut dire quoi?
Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à cette émission sur Inter qu'il y avait là, de Cône à un moment. Chaque invité avait droit à cette question. C'est quoi pour toi la pop culture? Et moi, j'ai toujours pas la réponse, si ce n'est que ça reste la racine de populaire, quoi.
Ah, et voilà.
Et ça me plaît évidemment beaucoup. Et avec un côté un peu transgressif, en effet, qui sort parfois des codes et de la bonne pensance parfois généralisée. Voilà. Donc évidemment, je suis hyper, hyper, hyper fier d'être au Diable Vauvert, qui est la maison d'édition la plus punk de France, qui est tenue par un personnage que j'aime éperdument, qui s'appelle Marion Mazori, qui a monté cette maison d'édition il y a 25 ans maintenant, qui a quitté Gélu, où elle était directrice de collection, pour aller s'encanailler au fin fond de la Provence et en petite Camargue. Et tout le monde lui a dit « Mais tu ne tiendras pas 2 ans ?» Et 25 ans plus tard, elle est là, et elle est solide, elle est dans le paysage, et elle compte beaucoup. Et elle a toute une brochette d'auteurs que j'aime passionnément pour leur voix et pour qui ils sont. Et il y a plein de genres littéraires différents, parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire, il y a de la blanche, donc la littérature générale, il y a de la poésie, il y a de l'essai, et voilà, pour rien au monde, j'irai ailleurs, quoi.
C'est une belle maison d'édition. Je reprends le mot de l'éditeur. Faisant matériaux littéraires du réel, impertinent, ironique. Alors, je me suis posé la question, plutôt je ne me la suis pas posée. Qu'est-ce qu'il y a d'autobiographique? Est-ce qu'il y a de l'autobiographie dans ton roman?
Bien sûr, évidemment, mais pas plus ni moins que mes précédents.
C'est vrai.
Donc forcément, je parle de littérature et d'apiculture qui sont deux de mes métiers, donc forcément on peut faire que le parallèle. Mais
accrocher un type sous la péniche, c'est autobiographique ça?
Non.
Non, parce que tu commences à me faire des soucis là.
Ça c'était dans le précédent,
je pensais. Oui, mais non, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Moi je suis en retard d'une guerre, mais là tu me fais souci quand même.
Non, mais là, je suis parti loin.
D'accord.
J'étais quand même allé voir des gendarmes de la chapelle en Vercors pour leur demander si on fait ça, c'est quoi les chefs d'inculpation? Donc, le gendarme que je ne nommerai pas m'a regardé un peu suspicieux en me disant « Ouh, mais toi, t'es chelou quand même. »
Ah ouais, c'est sûr.
Mais non, l'autobiographie, il y a une part d'autobiographie, forcément, de par mes jobs et de par mes rencontres. Mais il y a aussi, comme dans mes précédents, une part de ce que j'ai pu entendre, de témoignages, de ce qu'on a pu me raconter, de ce qu'on a pu m'échanger ou me partager, et une part d'imagination. Je peux partir sur des personnages existants, mais je suis incapable de les copier-coller dans un bouquin. Il faut toujours que je les fictionne et que j'en fasse autre chose. Donc, je préviens à chaque fois les gens dont je m'inspire. Je dis, ouais, je te préviens, j'ai un peu tiré la ficelle, mais surtout, ne le prends pas mal, quoi. Donc, voilà, c'est un mélange de tout ça, ouais.
Oui, mais c'est ça, de toute façon, la création, c'est un mélange de matériaux réels et d'imaginaire.
Oui, oui, tout à fait, ouais. Après, oui, on dit que l'auteur, les auteurs ou les artistes sont les spectateurs du monde et ils nous racontent le monde. Donc, c'est peut-être un des traits de caractère qu'on peut avoir en commun, en tout cas, c'est d'être un peu des éponges. Sans chercher à l'aide, ça nous vient un peu, ça nous tombe parfois dessus, des fois ça nous tombe un peu violemment dessus. Et la littérature, en tout cas, nous permet d'en faire quelque chose. Et c'est ça qui est génial, en fait, la littérature ou d'autres arts, quoi. En tout cas, moi, j'en ai fait des mots. Ouais.
Tes enfants ?
Oui.
Beaucoup ?
Ah oui.
Bah, surtout les deux gars. On parle d'impertinence.
Ouais, alors bon, c'est pas que ça.
On parle de provocateurs.
Oui, 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 bah, oui, oui, ils sont un peu comme ça, mais bon, c'est pareil. J'ai un peu tiré le fil. Ils vont, bon, ils ont pas lu là, mais ils vont me dire, mais attends, c'est pas moi ça.
Ouais.
Donc pas que. Mais voilà, mais en tout cas, eux, ils me tirent. C'est ça qui est merveilleux en fait, c'est qu'ils me tirent vraiment en avant. C'est-à-dire que dès que je deviens un peu trop vieux con, daron, encrouté dans ses certitudes et dans ses choix musicaux, par exemple, bah, il me secoue. Hein, et ça fait un bien fou. Moi, en ce moment, j'écoute du Jul à fond. Et ben, il y a des trucs. Tout n'est pas bon, mais il y a des trucs. Voilà. Et si mes gamins... Tu vois, comme. Alors, je vais faire un comparatif qui va peut-être en faire hurler certains. Moi, il y a un type qui m'a vachement aidé quand j'étais ado et très très mal dans la peau et qui m'a donné de la crédibilité à ce que je pensais, c'est Renaud. Renaud, il nous racontait des histoires incroyables, c'était un poète merveilleux. Voilà. Et il y a des phrases de Renaud qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et donc, je dois beaucoup à ce monsieur.
Ouais,
et mes gamins. Il pioche dans des phrases de Jul, donc c'est pas de la grande littérature, mais il y a quelque chose d'intéressant qui, eux, leur permet de gagner de la confiance et de se sentir légitime dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils ressentent. Et moi, ça me va, tu vois ? Moi, ça me va, quoi.
Donc, Gérard Lambert.
Non, pas pardon. Le gonfler je quand me suis dit, sa mobilette.
Faut pas le gonfler. Et Jul, c'est pareil. Je pense qu'il doit y avoir des petites révoltes aussi et qui nourrissent aussi. C'est très bien. Moi, je suis pleinement.
Annette, à toi. Vas-y.
Alors, un extrait. Papa, il faut que je te parle. Ouh. Toi, mon Pierrot, tu as fait une connerie. Ben, je sais pas si c'est une connerie. Explique. J'ai joué en ligne. Oui. Tu as misé combien ? 50. 50 ? Non. Si. Et tu as perdu combien ? Justement. Bon bah accouche ! J'ai pas perdu. Donc, j'ai gagné. Oui, d'accord, mais combien ? 153 500 et des broutilles. Combien ?
C'est totalement irrévérencieux.
Complètement. Ah ouais.
Non mais vous rendez compte,
c'est ça provoque.
Si parce que tu avais perdu ton CDI là, c'est bon là.
Non mais moi ça voilà, ça me fait beaucoup marrer quoi.
Bah bien sûr.
C'est l'air évidemment on sort des clous et tout, le gamin, il joue en ligne sur le téléphone de son père et donc ça se fait pas. Ça se fait pas, mais en attendant, ils sont sur la paille et ça fait la fortune de la famille. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit ça se fait pas, mais putain, ça fait du bien, quoi. Tu vois ? Donc, bah, c'est intéressant, moi, je trouve, à ce moment-là.
Mais pas dire... politiquement correct.
Oui, mais ça veut dire quoi, politiquement correct ? Ça veut rien dire.
Absolument.
Sur quelle échelle, aujourd'hui, tout est un peu brouillé, politiquement correct, ça ne veut absolument rien dire. Je trouve qu'il y a une espèce de retour en arrière qui moi, me tourne la tête.
On en parlera tout à l'heure, t'inquiète pas.
Ça me tourne la tête, donc pas politiquement correct. Je ne sais pas, peut-être qu'on dépoussière des certitudes ou de la bonne pensance. Moi, j'ai un peu peur là, hein, du politiquement correct aujourd'hui.
Moi aussi.
Ça me fait beaucoup peur. Ça me fait peur pour mes enfants, en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'à la maison, j'entretiens un peu de chaos, un minimum, histoire de démonter les certitudes qu'on peut nous marteler dès qu'on passe le pas de la porte. Quoi, voilà. Il faut donc, tant pis, hein, si ça fait saigner les oreilles, mais faut être vigilant hein, sur le politiquement correct. Ouais.
Alors, parlons de faire saigner les oreilles.
Ouais.
Je m'en fous complet d'être en retard au bahut. Ça me fait déjà chier d'y aller. Titouan, putain, pas de gros mots, je t'ai dit. Sans lever le nez et le coude de la table, Titouan verse du lait dans son bol, Bart Simpson, dont la moitié finit à côté. Samuel soupire. Père ? Deux secondes, Pierrot. Tu m'as entendu, Titouan ? Arrête les gros mots et nettoie-moi cette table, bordel ! Père ? Quoi, Pierrot ? Premièrement, je trouve que Pierrot, ça fait bébé. Ben, c'est un peu ton prénom. Deuxio, j'ai des revendications. Et troisio, bordel et putain, c'est des gros mots, je te signale. Revendication ? Quelle revendication ? Titouan lève enfin le nez de son petit déjeuner. Une lueur de vie miraculeuse illumine ses pupilles. Il entame une amorce de sourire, un brin sadique, qui semble l'épuiser dans l'instant. Puis, il ne résiste pas au plaisir de reprendre son petit frère. On dit tierso. Troisio. Ça n'existe pas, espèce de débile. Titouan, merde. Tu entends comment il m'insulte, papa ? C'est tout le temps comme ça avec lui. J'en ai marre. Il arrête pas de me traiter de débile. Titouan, ne parle pas comme ça à ton frère. Il n'est pas débile. Enfin, c'est pas moi. C'est pas toi. Ose me répéter que c'est pas toi. Bon, Pierrot, c'est quoi cette histoire de revendication ? Je veux déjeuner de la pâte à tartiner au chocolat qui déforeste. Pas de la bio éthique éthicable. Ça veut dire rien, débile, rajoute une fois encore Titouan. De la bien pourrie, de chez conventionnel et qui a vraiment du goût et plein de sucre. Et c'est pas négociable. Samuel Page ferme les yeux, il se pince le nez, il expulse un long souffle qui fait office de soupape de sécurité. Bon, le rebelle de service. Tu comptes t'enchaîner au placard de la cuisine tant que cette cochonnerie n'aura pas franchi le pas de la porte, j'imagine ? Possible. Alors écoute-moi bien, fils de mielleux, tu débarrasses tout de suite ton petit déjeuner à la confiture maison élevée sous le père, tu vas laver tes dents de lait et tu me rejoins dans la voiture. Right now. Et ça, c'est non négociable. De quelle voiture tu parles ? Ton camion poubelle de la honte absolue qui pue le vomi et la crotte de chien ? C'est toi, la crotte de chien débile. Pauvre con. Les gars, merde, c'est le matin.
Ah, c'est plein de gros mots, tu vois.
C'est plein de gros mots. Alors, c'est quoi ? C'est le père est débordé, c'est du laisser-aller, c'est des choix éducatifs. Explique-nous un peu.
Ouais, alors, on m'a beaucoup reproché, certains m'ont reproché d'utiliser ce jargon, et surtout dans la bouche des enfants.
Ah merde, putain, tu fais chier, sans déconner.
Du coup, ça m'a un peu. Je m'y attendais pas, en fait, pour être honnête. Donc après, je me dis, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt, quoi. On s'en fout presque de savoir comment parlent ces gamins. Une fois de plus, je pense que les auteurs ils racontent le monde, quoi. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent dans la bouche des enfants. Et il ne faut pas se masquer les oreilles. Ça se passe comme ça dans certaines familles. Donc c'est pas politiquement correct, mais ça veut pas dire déjà que les gamins ils tiennent pas debout, quoi. L'important, c'est qu'ils tiennent debout et qu'ils soient bien dans leur basket pour qu'ils puissent s'envoler un petit peu, à peu près solidement. Donc, clairement, Samuel Page, il est un peu dépassé par les événements. Mais surtout, je crois qu'il n'a pas l'énergie, quoi. Il n'a pas l'énergie et il n'arrive pas à faire mieux que ça. Il est au taquet, en fait. Tu vois, il est hyper présent, il est hyper bienveillant. Il gère sa maison et ses gosses du feu de Dieu.
Ouais.
Ils mangent à leur faim. Samuel, il gère 250-300 ruches. Il n'est toujours pas sorti de son deuil, duquel il ne se remet absolument pas. Il a subi la rumeur qu'il a totalement isolé du reste du monde. Et du coup, il fait comme il peut, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il n'a pas le jus pour faire mieux que ça. Et tant que ces gamins tiennent à peu près droit, parce qu'eux, ils se sont reconstruits, en fait. Eux, ils ont trouvé leur mayonnaise et leur sauce pour se sortir du deuil de leur maman qui est morte tragiquement, quoi. Et ils ont souffert. Donc, est-ce qu'il a un intérêt, en plus, à les reprendre dès qu'ils disent un grand mot ou sous prétexte qu'ils ne lisent pas les bouquins ? Il n'en est pas certain, en fait. Il a beaucoup de ses certitudes qui se sont effondrées avec le départ de Diane. Il n'est plus sûr de grand-chose. Donc, ouais, c'est pas terrible, des gosses qui parlent comme ça, mais c'est pas très grave, en fait. Il y a plus choquant aujourd'hui.
Moi, je crois que quand ils ont claqué la porte de la voiture, parce que tu sais que nous, notre job, c'est de faire le lien et qu'on est vachement bien payé pour ça.
Ouais.
Quand ils claquent la porte de la voiture, tu disais tout à l'heure, on se met une musique, on se l'écoute ensemble. Donc, c'est ça le lien.
You're gonna spread your wings. what's going to harm you now? Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na en rupture avec tout académisme de style. Alors, on a fait une petite sélection, un petit florilège.
Samuel n'en peut plus. Il a la tête pleine. Il caresse l'implosion de la fumée antarctique, sort de ses narines. Ses dents font des étincelles. Il fixe la jeune femme, un temps infini et de poussière. Il était épuisé avec leurs cernes, et leurs yeux qui grinçaient. Les dents serrées allaient déchausser au pic de bique. Diane avec son bébé. Elle lui faisait téter son doigt pour l'endormir, lui apprenait à lire, à écrire, à compter et la géopolitique occidentale. Je vivais clu et reclus. Le chien qui est mort, il y a des lustres et des brouettes. Il lance sa cafetière italienne et il attend sereinement qu'elle le siffle. Impatience et tension extrême. Elle n'est sortie de son bureau que le lendemain matin. Entre-temps, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. J'avais arrosé le jardin, mangé tous mes ongles, repassé les chaussettes des enfants, préparé le repas pour 6 mois, repeint le plafond de la chapelle Sixtine, puis j'avais décidé de finir ma nuit dans le canapé du salon et de relire « Guerre et paix » tout en apprenant l'occitan. Son jean taille basse, délavé, baillé, et laissait s'échapper le haut de ses hanches, camp de base de sa lascivité. Etc., etc.
C'est très beau, très beau.
C'est, ça foisonne, c'est des pépites. Comment tu trouves ces pépites? Tu le cultives ou ça te vient naturellement? Comment tu travailles ça?
C'est les drogues.
Je me disais aussi.
Non, c'est très bizarre en fait. Soit ça me tombe dessus au moment où je l'écris. Après, il y a des fois, il y a des fautes de frappe. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir donner un exemple parce que chaque fois, il m'échappe. Mais je me souviens de La fille du chasse-neige où j'avais fait une faute de frappe qui m'avait offert un jeu de mots fabuleux. Après, il y a la chance et puis il y a le lâcher-prise, quoi. Il y a le lâcher-prise et comment tu joues et comment tu décortiques les mots et comment tu t'amuses avec eux à force de les lire et les relire. Donc, soit ça te tombe dessus, soit ça, à force de lire et relire, c'est très, très, très variable, quoi. Après, c'est clair qu'il y a un côté un peu muscle qui se travaille aussi, mais il faut faire gaffe à pas... tomber dans le piège qui me fait super peur, qui est un des thèmes du bouquin d'ailleurs, qui est de commencer à s'écouter écrire et dire ouais, putain, je suis super fort pour faire des jeux de mots. Et bien, je vais faire un livre, parce que en ce moment je suis un peu là-dedans, bref. Ouais. Voilà, ça me fait super peur. Donc il faut que le jeu de mots il peut être totalement gratuit et pourquoi pas, mais il faut faire gaffe à pas enchaîner les belles phrases et à s'écouter écrire et à dire ouais, qu'est-ce que je maîtrise la syntaxe, tu vois. Ça me fait mais très très peur. Honnêtement, moi je connais des auteurs qui malheureusement sont tombés dans ce piège-là. Et voilà, ce qu'il faut, c'est rester à l'os et puis avoir des urgences émotionnelles. à poser sur le papier. Il faut savoir entretenir, au moins pour la littérature, le plus longtemps possible ces névroses, quoi. Même si le reste du temps, c'est insupportable à vivre. Mais voilà, ça, c'est les vrais outils d'écriture. C'est bien sûr que j'aime beaucoup jouer avec les mots et trouver ces pépites, clu et reclus, tout ça, ça me fait beaucoup rire. Le camp de base de sa lascivité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché au moment où ça m'a été offert, quoi, tu vois. Mais j'en retire pas la plus grande fierté de ce que je fais. Moi, c'est pouvoir rester à l'os et puis respecter mes personnages. Tu vois, ça c'est hyper important, et d'être juste avec eux, quoi. Ça, c'est vraiment ce que je quitte pas des yeux du début à la fin d'un bouquin, quoi.
Je voulais te demander si tu avais d'autres projets, si tu as un roman en vue ou autre. Je parle de littérature, je parle pour l'instant.
Ouais, alors j'ai plusieurs choses là qui sont dans les cartons. Je viens de finir un texte qui est en lien avec les photos de mon vieux frère Yann Luran, qui est photographe sur le Vercors Sud, là. Voilà, avec ses photos hyper réalistes et un texte qui est plutôt du domaine du conte ou de l'onirisme. Voilà, on n'a encore pas totalement fini notre truc, donc je suis là-dessus. Je suis sur un projet qui sortira sous pseudo, parce que c'est pas pour les enfants.
Oui, ça, tu m'en as parlé. Ouais, c'était un peu... Voilà. C'est pour les longues soirées d'hiver.
Voilà, c'est mon ami Christophe Siebert qui est auteur au Diable Vauvert et qui est vraiment qui a une plume mais absolument incroyable et qui est aussi éditeur à la Musardine, qui est une maison d'édition un peu coquine. Donc voilà, là j'ai fini pas plus tard que tout à l'heure, et puis je pense que dès la semaine prochaine, je me lance dans mon prochain roman, ouais. Et ouais, c'est parti la semaine prochaine.
D'accord. Tu te jettes, mais tu n'as pas, t'as pas un plan déjà.
Justement, j'essaie de travailler différemment. Là, j'ai essayé de mettre mon expérience avec l'équipe d'auteurs que j'ai eue au service de ce quatrième roman. Et bon, après, je trouve que le cerveau humain est une machine absolument incroyable. Et en fait, je me rends compte que j'ai intégré ces trucs et astuces de manière assez inconsciente, à force de le pratiquer avec le projet collectif, là. Et donc, j'essaye de trouver un mix entre... Je veux travailler une structure, je veux savoir où je vais. En tout cas, j'ai des grosses envies. L'époque nous souffle à l'oreille beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'envie. En tout cas, j'ai mes persos, là. Mais ça part, c'est un peu comme Siebert, là. Je vais reparler de Siebert, mon super pote. On part souvent, nos histoires partent souvent d'un personnage. C'est vraiment un personnage qui nous tombe dessus et qui vient nous habiter et qui commence à nous raconter son histoire. Et bah, à nouveau, ça va se passer comme ça, parce que là, j'ai vraiment mes persos, j'en ai 4-5 là. Et puis, il commence à
bouger.
Il commence à se mettre un peu sur la gueule, là. Donc il faut qu'il sorte de ma tête, là.
D'accord. Eh bien, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donner la parole au spectateur.
Alors ici, on est populaire.
Alors, est-ce que l'intelligence artificielle te fait peur ou tu penses que c'est un outil qui pourrait... voilà. Comment tu vois ça en tant qu'écrivain?
Ouais, c'est compliqué parce que moi, j'ai une nature qui n'est pas toujours très optimiste. Il faut en tirer. Voilà, je pense qu'il n'y a pas que du mauvais dans l'IA. Je pense que ça peut être un super outil qui peut nous aider sur plein de choses. Mais ça me fait super peur. Ouais. Ça me fait super peur parce que ça prend déjà la place des humains. Voilà. Et
si on arrive à le maîtriser, ça peut être un bon outil. Mais...
Ouais, mais même en le maîtrisant, je pense qu'il peut vite virer satanique, quoi. C'est un vivier de pensée et d'écriture qui en ce moment fonctionne plein pot. Moi, je le vois au Diable Vauvert. Il y a plein d'auteurs là qui écrivent sur le sujet et qui en parleront certainement mieux que moi. En tout cas, surtout les gens de l'imaginaire, de la SF et tout ça. Moi, je vois pas ça d'un très bon œil, en fait, j'avoue. J'ai peur pour ma propre tête, de manière extrêmement égoïste. J'ai peur pour mon avenir, j'ai peur pour mon métier, j'ai peur pour le métier de ma compagne. Pas plus tard qu'hier, on m'a donné un exemple au sein du Diable Vauvert. Il y a quelqu'un qui travaille et dont le compagnon travaillait pour la revue Nous Deux. Donc, qui est ce qu'elle est, mais il vient de perdre son job parce que c'est l'IA maintenant qui raconte les histoires de Nous Deux. Voilà, donc ça date d'hier, tout simplement.
Alors la question était, est-ce qu'on se sent écrivain une fois qu'on a fini d'écrire ou écrivain une fois qu'on a publié et vendu ? Une reconnaissance. Comment tu te sens maintenant, actuellement ? Dis-moi.
Alors, docteur.
Non, pas docteur, allonge-toi, s'il te plaît.
Ça me fait penser à la psy de mon bouquin. Donc, pour préciser, en fait, il va chez la psy, mais lui, il ne veut pas y aller. C'est son ancienne éditrice qui lui paye le psy pour qu'il se remette à écrire. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Après, c'est un sujet qui est hyper vaste et je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'auteurs en fait, à cette question.
Oui, tout à fait.
Je ne connais pas un auteur qui n'a pas le syndrome d'imposteur. Ça, c'est quand même assez unanime. Après, on est tous... Un des points communs aussi des auteurs, c'est quand même un besoin de reconnaissance, comme plein d'humains, être connu par nos congénères, quoi. Moi, je me suis rendu compte que j'avais écrit un bouquin quand le livre en lui-même est arrivé dans ma boîte aux lettres. Là, il se passe quelque chose, quoi. Jusque-là, c'est très virtuel. Moi, j'écris sur ordi. Donc, OK, t'as un nombre de pages, de signes, t'as abouti à quelque chose. Mais quand le bouquin arrive, là, il se passe vraiment quelque chose qui rentre dans le concret. Et je crois que je commence avec ce troisième bouquin là, qui vient de sortir à me penser comme un auteur, quoi. Et à me donner le droit de me penser auteur. Mais parce qu'on me l'a dit, répété, et qu'on m'a fait beaucoup de retours, j'avais un tel syndrome d'imposteur sur mon premier roman que j'en venais, je vous jure que c'est vrai, j'en venais à douter d'avoir moi-même écrit ce livre. Tellement on pousse le processus de l'imposture à fond. Mais moi, je trouve que c'est plutôt signe de bonne santé.
Mais tu le connais, le mec qui a écrit le livre ?
C'est nous trois. C'est nous trois.
Je vais juste
alors
terminer par une phrase du Diable Vauvert qui dit... Allez au diable, goûter ses libertés et ses irrévérences.
Ouais, merci Marion Mazorik. Merci beaucoup.
Alors merci à vous. Hein, merci. Et on peut s'applaudir quand même. Merci.
Merci à vous tous d'être là. Merci à Fabrice, Solange et tout le monde.
Et merci à l'association Vent du Vercors.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my